parce qu'en une journée, on ne peut célébrer toutes celles et tous ceux qui ont fait avancer les droits des femmes.
Parce qu'en une journée, on ne peut pas gagner l'égalité dans le travail, à l'Assemblée, dans le couple.
Parce qu'en une journée, on ne peut pas tout dire, tout dénoncer, de l'utilisation de l'image des femmes pour vendre des voitures aux violences sexistes et sexuelles.
Retrouvez-nous tous les troisièmes vendredis du mois dans notre émission Il n'y a pas que le 8 mars et en podcast sur Radio B. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de YAPAC le 8 mars. Bonjour Natacha.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Et bonjour Joël.
Bonjour. Eh bien, en cette fin d'année, on se pose, on réfléchit, on pense. On pense, on repense aussi à des rencontres, à des fêtes qui nous ont marquées ou qui nous marquent encore. Nos coups de cœur, ben, c'est le thème de notre émission de décembre 2025.
YAPAC le 8 mars. Sur Radio B. Et pour bien terminer l'année en mode féministe jusqu'au bout, je vous propose des petites douceurs à regarder pendant la pause de Noël. Et ces petites douceurs, je ne les ai pas choisies par hasard. Elles sont toutes issues de réflexions personnelles des dernières semaines. Et oui, j'ai réfléchi et j'ai été en contact avec plein de personnes qui m'ont aidée à ça. D'abord, j'ai suivi une formation pour devenir secouriste en santé mentale. Alors oui, c'était le sujet des deux dernières émissions. Et pendant cette formation, j'ai appris 2-3 trucs, mais surtout une chose. En gros, le mieux pour aider les gens, c'est d'essayer de faire preuve d'empathie. Tu te souviens, Michel ?
Oui, je me souviens de l'empathie.
Peu de temps après, je suis tombée sur un post de Valérie Ray-Robert, qui est essayiste féministe. On l'avait interviewée l'année dernière sur la culture du viol. D'ailleurs, l'émission est toujours en ligne, si vous avez besoin d'une piqûre de rappel. Et dans ce post, elle expliquait avoir regardé le documentaire « Je vais te tuer » sur Arte, autour des hommes violents. Et elle parle de langage incompris, de mépris de classe, d'humiliation, pour nous faire réaliser que souvent, ces hommes ne partagent pas le sens des mots utilisés par les magistrats. Elle propose même un accompagnement individuel encore plus renforcé, plus exigeant pour les auteurs de violences, adapté à chaque individu. Car pour le moment, en fait, les programmes en place, ça ne fonctionne pas très bien. Et on le voit quand on lit les informations. Et ça m'a interpellée et ça m'a aussi parlé. Car moi, j'en rencontre parfois des hommes violents, en prison. Violents parce qu'ils ont été méchants, violents avec leur conjointe. Et quand je les entends parler, effectivement, je ne suis pas certaine qu'ils comprennent bien pourquoi ils sont là. Et se poser cette question de l'accompagnement des auteurs, c'est faire un pas de côté sur notre colère, peut-être essayer de faire preuve d'empathie. Mais surtout, un autre point qui me paraît important, en plus de cet accompagnement renforcé qu'elle suggère, et vous allez voir où je veux en venir, c'est que bien souvent, ces hommes n'ont pas eu l'espace pour faire grandir leur empathie, justement. Donc il faudrait la valoriser, cette empathie, l'ériger peut-être comme une valeur républicaine, tant qu'à faire, au point où on en est.
Ben oui, pourquoi pas. Mais alors, tu peux nous redire ce que c'est que l'empathie ?
Eh ben oui, parce que l'empathie, il faut quand même mettre un mot, une définition là-dessus, parce que ce mot, on le sort un petit peu à tort et à travers. L'empathie, c'est ce qui nous permet de nous mettre à la place de l'autre, de vivre son émotion, de ressentir ce qu'il ressent. Alors dit comme ça, ça paraît un peu cuculapraline, mais force est de constater que c'est pas l'apanage des hommes dans la société qu'elle existe aujourd'hui. Attention, je dis pas que les hommes ne sont pas empathiques. Je dis simplement qu'ils sont moins éduqués que les femmes à l'être et à le montrer surtout. D'ailleurs, dans un autre temps de travail que j'ai eu, avec un groupe composé majoritairement d'hommes, ces derniers m'ont affirmé que c'était aussi pour ça que l'amitié homme-femme ne pouvait exister. Car les hommes ne peuvent pas simplement se livrer auprès d'une femme, raconter leur vie, leurs émotions, leurs sentiments. Ils seraient prédisposés à suivre leur instinct en présence d'une personne du sexe opposé et n'y voir qu'un intérêt sexuel. Ces hommes ne sont pas des exceptions, puisque d'après les statistiques, aujourd'hui en France, 83% des femmes choisissent des amis femmes et 72% des hommes des amis hommes. Pourtant, on le sait, nous, que derrière les hommes tout enfouis, il y a des petits cœurs qui battent, des émotions, des sensations. Et les créatrices des œuvres que je vous présente le savent aussi. Ça, c'est le film « Mon gâteau préféré », co-écrit et réalisé par Mariam Mokadam et Behtash Sanaïa. Désolée, mon accent iranien n'est pas génial. Donc, deux Iraniens qui ont entièrement tourné ce film en cachette. Hein. D'ailleurs, ils ont été condamnés à une peine de prison pour propagande contre le régime de Téhéran et obscénité. Alors moi, perso, l'obscénité, je ne l'ai pas vue. Hein. Mais j'ai vu une très, très belle histoire, celle d'une femme, Maïn, 70 ans, veuve depuis très longtemps. Et on la voit entre les murs de sa maison, faire quelques courses à l'extérieur, échanger avec ses amis autour d'un repas sans complexe où elle nous raconte leur quotidien. Et surtout, on la voit rencontrer un chauffeur de taxi, l'inviter pour un repas pour lequel elle cuisinera son gâteau préféré. Un très très beau film avec des personnages tout en douceur qui nous invitent dans leur intimité. Ça fait du bien au moral, même s'il y a beaucoup de mélancolie. Et en filigrane, quelques images du régime iranien qui nous inquiètent toujours autant. Et puis encore de la mélancolie et de la beauté avec le film L'Attachement, co-écrit et réalisé par Karine Tardieu avec Valeria Bruni-Tedeschi et Pio Marmaille. Ici, c'est Sandra, quinquagénaire indépendante, qui se retrouve à gérer son voisin de palier qui perd sa femme dès le début du film et se retrouve seule avec ses deux enfants. C'est très triste, mais c'est surtout de l'humain, des rencontres, des liens qui se font et se défont et de très très beaux personnages, y compris des hommes qui pleurent, qui racontent ce qu'ils vivent, qui disent qu'ils ne sont pas capables. Une belle réussite. Et puis, pour rester sur cette déclaration d'amour à l'empathie, une fois n'est pas coutume, un artiste homme, je fais une petite exception pour cette dernière de l'année, et mon coup de cœur musical, vu en concert cette année au Radiant à Caluire, Pierre Lapointe, et son dernier album, 10 chansons démodées pour ceux qui ont le cœur abîmé. Je vous laisse écouter le titre « Dans nos veines ».
Toi, tu dessines de traits sans une hésitation de chacun de tes gestes la plus belle des fresques. Moi, je tente de rester puissant comme un glacier prêt à faire naufrager mon désir titanesque. Toi, tu roules comme une vague, viens inonder ma vie, ravageant tout autour, mettant fin aux sécheresses. Moi, je tente en vain la fuite pour m'éloigner de toi, mais c'est peine perdue, je suis lassé d'ivresse. L'amour coule dans nos veines, on s'est trouvé toi et moi. Nous ne serons plus jamais les mêmes, vite prends-moi dans tes bras. Toi, tu parles sans parler, jouant des éléments, usant de langage venant d'une autre planète. Moi, sans même savoir comment, je réponds en silence et se déclenche en moi de superbes tempêtes. Toi, tu joues avec la vie comme le ferait un enfant, faisant fi de tous les secrets, tous les mystères. Moi, je crois t'avoir croisé une nuit dans un rêve perdu quelque part entre Saturne et la Terre. L'amour coule dans nos veines, où s'est trouvé toi et moi. Nous ne serons plus jamais les mêmes, te prends-moi dans tes bras. Toi, tu chantes de ta voix des idées voyageuses, tel un explorateur venu d'un autre monde. Moi, je reste subjugué devant tant de beauté, je suis paralysé par d'admirables ondes. Toi, tu propages dans l'air des parfums de bonheur comme des odeurs de fruits inconnus ici-bas. Moi, je peux lire dans tes yeux tes secrets, tes passions, tous ces rêves qui dorment depuis toujours en toi. L'amour coule dans nos veines, on s'est trouvé toi et moi. Nous ne serons plus jamais les mêmes, vite prends-moi dans tes bras. C'est l'amour qui nous emmène en exil, toi et moi. Une contrée lointaine où on ne reviendra pas.
Et Et vous pouvez entendre le titre « Je déteste ma vie » de Pierre Lapointe, toujours lui, dans toute la tout aussi magnifique série québécoise « Empathie », coup de cœur de l'émission d'octobre que je recommande. Et puis je tiens à signaler que les films que j'ai cités auparavant sont tous dans les médiathèques de Bourg, donc vous pouvez aller les emprunter.
Et pour toi Michel, un peu de lecture?
Oui, trois coups de cœur, deux autrices et un auteur. Alors j'ai quelques problèmes de voix, donc je vais essayer quand même d'arriver au bout de mon propos. Sinon, je passerai le relais. En octobre, on m'a offert le livre de Natacha Apana, La nuit au cœur. Ce roman raconte, en les entrelaçant, trois histoires de femmes victimes de violences conjugales. Son récit personnel, Natacha raconte ses 7 années d'emprise et de violence par un ancien compagnon dont elle a réussi à s'échapper. Et les histoires de sa cousine Emma, qui a été tuée par son mari à l'île Maurice, et Chahinès Daoud, qui a été victime d'un féminicide en France en 2021. Elle a été immolée par son conjoint.
Et donc ce texte mêle le témoignage personnel et l'enquête presque policière sur 2 féminicides.
Oui, l'auteur explique vouloir figer ces histoires pour que personne ne les oublie. Elle décortique les mécanismes de l'emprise et de la domination masculine sur tous les plans, physique, psychologique et sexuel, et la façon dont elle se construit petit à petit et se normalise. Ces 3 femmes, qui vivent dans des milieux différents et respectés, sont finalement seules, honteuses et se sentent coupables. Elles sont incapables de réaction jusqu'au dénouement, jusqu'à leur mort.
Et qu'est-ce qui t'a plu dans ce roman ?
Apana commence par poser sa propre histoire, son expérience de la violence conjugale et de l'emprise. Elle est donc légitime pour parler des autres. Elle sait de quoi elle parle. Elle donne une humanité à Emma et à Chahinès. Elle raconte leur quotidien, leurs espoirs, leurs peurs. Ce ne sont plus des faits divers, des numéros, mais des femmes vivantes qu'on a massacrées.
Oui, et l'autrice alterne passages narratifs et réflexions sur la compréhension de l'horreur.
Oui, Apana est ici au service de la vérité, de la dignité, de la dénonciation des violences contre les femmes. Elle ne cherche pas à faire du style, mais à être efficace dans ses propos. Ses phrases sont courtes, sobres, et elle laisse parler les faits qui montrent la violence. On arrive à sentir l'emprise presque matériellement, car elle fait souvent parler directement les victimes. Il faut que les victimes existent. Ici, la littérature est un outil de mobilisation et de mémoire qui démontre que la violence n'est pas une affaire privée, mais un phénomène systémique. Apana veut réveiller les consciences et qu'on arrête de considérer les féminicides comme tolérables.
Et ça t'a fait penser à une autre autrice que tu aimes beaucoup.
Oui, bien sûr, littérature de femmes pour les femmes féministes. Du coup, on pense à Annie Ernaux, dont on a déjà parlé dans une émission. Ernaux utilise son expérience personnelle, non pas pour parler d'elle seule, mais pour révéler des phénomènes collectifs, historiques et sociaux, ce qu'elle appelle faire de l'auto-sociobiographie. Par exemple, dans son œuvre « Les années ». J'avais adoré ce livre.
Et puis, un auteur qui gravite aussi dans ce registre.
Alors, après Apana et Ernaux, forcément, je pense à Édouard Louis. J'ai eu la chance de le rencontrer, c'était aux Amphis de la France Insoumise, et de passer un très long moment avec lui. Il a publié récemment un essai qui s'appelle « Que faire de la littérature ?». C'est un manifeste pour une nouvelle littérature radicale, contemporaine, engagée politiquement et socialement. Édouard Louis, notamment à travers son roman « Combat et métamorphose d'une femme » qui est sorti en 2021, qui est dédié à sa mère, inscrit sa littérature dans une perspective féministe et se focalise sur la double oppression que subissent les femmes des classes populaires.
Et oui, selon Édouard Louis, la littérature est féministe quand elle permet de rendre visible l'oppression et l'émancipation féminine, de mettre en lumière la violence subie par les femmes issues des classes populaires, hein, violence conjugale, sexuelle, pauvreté, etc., et qui sont soumises à une double domination, celle de la classe sociale et celle de la domination masculine, le patriarcat.
Dans son roman, il raconte le parcours de sa mère, qui va réussir à se sortir de son milieu et des violences qu'elle subit. Il montre que la violence est systémique et qu'il faut en démontrer les mécanismes si on veut les combattre et y échapper.
Et lui aussi, il connaît cette violence.
Oui, Édouard Louis est homosexuel et en a beaucoup souffert toute son enfance, aussi bien dans sa famille que dans le quartier et à l'école. Il dénonce la façon dont la masculinité est souvent déployée dans l'hétérosexualité et comment le patriarcat se répercute sur les vies des femmes en les forçant à encaisser, juguler et subir la violence au quotidien.
Trois coups de cœur donc, Natacha Apana, Annie Ernaux et Édouard Louis pour toi Michel.
Eh oui, même si leur écriture est différente, elles peuvent être reliées par leur façon de concevoir la littérature comme un outil d'enquête et de description de la réalité des violences et des enjeux sociaux. Ils ont la volonté de faire entendre le réel en se servant de la littérature comme d'un instrument de connaissance, de combat contre les idéologies dominantes du monde.
J'étais folle de lui.
Eh bien oui, je parle fort, parce que je suis heureux et j'ai envie de le crier.
Il était d'une tendresse infinie.
Oh, je t'aime. J'aime tout.
Moi aussi.
C'est plus sage d'attendre un peu. À mon âge, moi j'ai plus envie d'être sage.
Bon, t'es sûr que tu vas pas regretter de faire tout ça pour moi?
Ah, j'échange la mer contre les forêts.
Et l'amour.
Tu te plains de ton mari?
Pourquoi tu fais toujours que je me plaigne de toi?
Pardon, excusez-moi.
Pourquoi tu m'as raccroché au nez?
J'étais en cours.
Tu rentres à quelle heure?
17h, pourquoi?
Il t'appelle tout le temps ton mari, hein?
Oui, il est comme ça.
Ah bah t'es complètement fou.
Bah, je te parle mais tu réponds pas. J'ai réfléchi et on va rester là pour Noël, hein. C'est beaucoup plus simple. T'as besoin de voir du monde? On n'a besoin de voir personne, on est bien tous les deux. Je te veux que pour moi.
Greg s'est arrangé pour me rendre la vie impossible.
Et vous suivez?
T'étais où?
Je veux que tu répondes à la moindre de mes questions.
T'étais où?
Oh Blanche, je t'aime tellement.
Je vous préviens, le chemin va être long. Vous devrez dire des choses qui vous font souffrir. C'est une guerre.
Et une recommandation ciné, le film de Valérie Donzelli, L'amour et les forêts, avec Virginie Efira et Melville Poupeau.
C'est l'adaptation du roman d'Éric Reinhardt. Le film raconte la descente aux enfers de Blanche sous la jalousie et la violence de son mari Grégoire. Comme dans le livre d'Apana, on voit comment l'emprise s'installe progressivement dans le couple où tout avait pourtant bien commencé. Brimades, commentaires désobligeants et surveillance. Grégoire isole sa femme de ses amis et de sa sœur jumelle. Complètement perdue, Blanche est finalement hospitalisée, mais elle va s'en sortir. C'est un film brillant qui a reçu une bonne critique et les acteurs sont parfaits.
Et il montre bien la mise en place du contrôle coercitif ou comment l'auteur de violence déploie la mécanique pour maîtriser sa victime. Natacha, toi de ton côté, autre sujet et tu attendais impatiemment de nous révéler ton coup de cœur.
Et oui, enfin, mon coup de cœur est prêt depuis la saison dernière. Donc effectivement, j'étais impatiente et en attendant qu'on le diffuse, je ronge mon frein, je trépigne. Il avait été annoncé lors de notre émission de juin dernier, puis reporté à la faveur de l'actualité. Le voici, le voilà, c'est la bande dessinée Outre-mer. Avec un jeu de mots, car mère s'écrit mère comme M-E-R-E-S, et non la maman, et non M-E-R comme la mère, comme dans les dom-toms que désignent les 13 territoires français situés en dehors de la France métropolitaine. Alors Outre-mer, c'est une bande dessinée au dessin tout doux, au trait rond et sobre pour un sujet grave et révoltant, celui du scandale largement oublié des avortements forcés pratiqués sur l'île de la Réunion dans les années 60-70. La bande dessinée est parue aux éditions Viber en octobre 2024. Elle est écrite par Sophie Adriensen, dont on a déjà parlé ici, et pas plus tard que le mois dernier pour sa BD La Remplaçante sur le postpartum. Et les illustrations, elles, qui sont de belles illustrations efficaces et tout en retenue, sont réalisées par Anjali, que l'on remercie d'ailleurs chaleureusement parce qu'elle a eu la gentillesse de répondre à nos questions sur le livre. On l'écoute.
Je suis la dessinatrice de la bande dessinée Outre-mer, le scandale des avortements forcés à La Réunion. Alors, de quoi elle parle, cette BD?
Alors, dans Outre-mer, qui est une bande dessinée avec laquelle j'ai travaillé avec Sophie Adriensen, qui a écrit l'histoire, donc qui est la scénariste, On revient sur un scandale qui a eu lieu dans les années 70 à l'île de la Réunion, qui sont une série d'avortements et de stérilisations forcées sur les femmes donc très majoritairement pauvres et non blanches de l'île de la Réunion. Et donc, il y a eu, à l'issue de ce scandale, une enquête et un procès où une trentaine de femmes ont eu le courage de porter plainte. Et donc, on va suivre un peu le personnage qu'on a inventé pour pouvoir voilà, être un peu les personnages qu'on va suivre pour pouvoir voir cette histoire, qui est Lucie, qui est une jeune maman de 30 ans qui est enceinte de quelques mois et qui, après une opération normalement d'appendicite, se rend compte qu'on lui a enlevé son bébé et qu'elle a été stérilisée. Et donc, elle va faire partie de ces femmes qui portent plainte et on va pouvoir suivre le procès, l'enquête et le procès à travers ses yeux. Dans ce livre, on a trouvé que c'était important de pouvoir aussi remettre dans le contexte plus général de la France, donc où on en est par rapport aux luttes féministes à ce moment-là. Donc, du coup, dans notre BD, on alterne avec des passages à Paris, où cette fois-ci, on va suivre une jeune femme, Marianne, qui a 18 ans, qui, elle, a avorté, donc, illégalement, et qui va se rapprocher des mouvements féministes, du MLF, et on va pouvoir voir un peu justement toutes les luttes qu'il y a à ce moment-là, les différentes manifestations, se rendre compte à quel point effectivement la contraception est extrêmement difficile d'accès, quand bien même elle a été légalisée quelques années auparavant. On est dans un contexte donc sur le territoire métropolitain extrêmement nataliste, on va pousser les femmes à faire des enfants et rendre difficile la contraception, alors que voilà, de l'autre côté, à l'île de la Réunion, alors qu'on est toujours sur le territoire français, dans le même temps, on va avoir des publicités, des affiches de partout pour dire aux femmes d'arrêter de faire des enfants, de se dire bon voilà, un, deux enfants, ça va, mais après il faut s'arrêter. Donc on est vraiment dans un double standard au niveau de la natalité, au niveau des politiques. Voilà, donc on est vraiment absolument dans le même temps, c'est chronologique. Ce qui est intéressant aussi là-dessus, c'est que l'issue du procès, on va être en mars 1971, et la signature des 343 est un mois plus tard. Donc vraiment, on est sur ce contexte-là, vraiment chronologique, et ça souligne encore plus, ça souligne encore plus le scandale qui se passe à la Réunion, c'est-à-dire qu'on n'est pas seulement sur un désir de contrôler le corps des femmes de manière générale, donc avec une domination patriarcale, mais en plus des femmes noires avec cette envie de dire bah, le corps des femmes noires, on veut les contrôler pour qu'elles arrêtent de faire des enfants, le corps des femmes blanches, on veut bien qu'elles en fassent parce que voilà, c'est la France telle qu'on le voudrait, quoi.
Et alors, ça représente combien de femmes ? Combien de femmes ont été concernées par ces avortements forcés, tu sais ?
Alors, il n'y a pas de chiffre. On n'a pas de chiffre exact. Donc, ça concerne des milliers de femmes. Donc, on ne peut pas être plus précis que ce terme-là, tout simplement, parce qu'il n'y aura pas eu, au final, d'enquête plus poussée que ça. Déjà parce qu'il y a eu des disparitions de documents, aussi parce que ces opérations, donc ces avortements, n'étaient pas nommés comme des avortements. Dans les comptes rendus médicaux, tout simplement parce que c'était interdit, illégal encore en 1970. Et donc du coup, pour pouvoir les pratiquer et pour pouvoir être remboursé par la Sécurité sociale, les médecins qui pratiquaient ces avortements passaient par des termes alternatifs. Là notamment, dans le cas de Lucie, c'est une ablation d'appendice, plein d'autres types d'opérations qui sont remboursées. Et aussi parce qu'à l'issue de ce procès, il n'y a tout simplement pas eu plus de résultats et d'enquêtes poussées de la part de l'État, de la part de la Sécurité sociale. Voilà, c'est un peu la déception aussi de la fin de ce livre et la fin de cette histoire, c'est que voilà, un médecin a été vaguement condamné, d'autres ont été relaxés au bénéfice du doute. Le propriétaire de la clinique, il a été reconnu civilement responsable mais n'a pas été condamné. Et voilà, et les femmes ont été déboutées et ont dû payer leurs frais de justice, ce qui est absolument aberrant.
Et ce qui est effectivement ahurissant et ce qui marque aussi, c'est que les seules indemnités accordées aux victimes, ça l'a été à deux maris.
Deux maris, voilà, qui ont perçu des indemnités pour la perte du fœtus qui était dans le ventre de leur femme.
Et alors la réception à La Réunion et en métropole, est-ce que du coup, cette BD, elle fait bouger les choses ? Est-ce qu'elle amène des collectifs, des personnes à se dire il faudrait réouvrir ce dossier, à pouvoir mener un travail d'enquête indépendant, impartial, complet ?
Alors, on aimerait bien que ça débouche là-dessus. C'est un peu notre intention aussi au départ de se dire, voilà, on en parle pour que d'autres personnes aient envie d'en parler aussi. Ce qui est sûr, c'est que le livre marche plutôt bien. Les gens qui découvrent le livre, pour une grosse majorité, découvrent l'histoire. À La Réunion, je tombe un peu plus souvent sur des gens qui peut-être connaissaient, mais on reste quand même avec une majorité de personnes qui découvrent ça. On est déjà assez satisfaite du fait qu'il y a eu pas mal d'articles autour de la sortie de la BD, donc une visibilité de ce scandale qui est plus importante. Il y a eu un épisode d'Affaires Sensibles dédié au sujet, où Sophie du coup a été invitée pour pouvoir ensuite aussi parler du livre. Donc voilà, c'est comme ça qu'on apporte un peu notre pierre à l'édifice, on parle de notre livre, du coup on parle du scandale. Après, oui, effectivement, l'objectif ce serait qu'il puisse y avoir une commission d'enquête. Il y avait une demande de commission d'enquête il y a quelques années par un député à l'Assemblée nationale, mais qui n'a a priori pas été retenue. Espérons que peut-être d'autres personnes prennent un peu en main le sujet pour faire bouger les choses là-dessus.
Et oui, espérons, et pour faire avancer ce combat, achetons, partageons et diffusons le livre Outre-mer, le scandale des avortements forcés à La Réunion. Merci encore à Anjali.
Oui, alors ce sujet-là, il a été aussi traité par Françoise Vergès. Alors des fois, tout le monde n'a pas vraiment accepté son livre d'une façon très positive, mais en tout cas, voilà, il apporte des choses très intéressantes. Le livre s'appelle « Le ventre des femmes » et on peut le trouver chez Albin Michel. Alors, autre sujet, beaucoup moins sociétal et politique, quoique. Comme toi, Natacha, j'ai dans mes cartons un interview, celui de l'auteur de BD, Aude Mermillot. Nous l'avions rencontré il y a quelques mois avec toi, Michel, tu te rappelles, hein, lors de sa venue à Bourg, et ce fut une belle rencontre. Noël arrive, c'est le moment de faire des cadeaux, nous continuons à vous donner quelques pistes. Et voilà. Alors, Aude Mermillot, c'est l'autrice de plusieurs bandes dessinées, entre autres, Il fallait que je vous dise, qui est une BD dont le sujet est l'avortement, et ce sujet est bien actuel. Et puis, pour l'occasion, j'ai relu ces deux livres, Il fallait que je vous dise, et puis Éclore, qui est son dernier ouvrage, qui est sorti il y a tout juste un an maintenant. Alors Éclore, c'est une trajectoire, c'est la sienne, un cheminement très personnel mais qui peut faire écho à de nombreuses femmes quand l'histoire personnelle rejoint celle des autres. C'est ce dont tu parlais aussi, Michel, tout à l'heure. Et nous repartons donc un moment avec cette autrice. Elle nous parle de son travail, de l'évolution de sa façon d'écrire et de sa façon de dessiner.
Il fallait que je vous le dise, donc c'est un récit sur l'avortement et je l'ai fait avant tout, pas mal pour moi en fait celui-là je pense au début, avec cette idée qu'il y avait quand même très peu de récits sur l'avortement qui existaient, que ce soit en BD ou en littérature d'ailleurs, et que moi j'avais vécu quelque chose, que j'avais déjà quand même pas mal pris de notes au moment où je le vivais, donc j'avais des journaux intimes un peu qui existaient de cette époque-là, et que ça me semblait, enfin il me semblait qu'il y avait quelque chose à dire sur l'IVG, maintenant qu'on n'avait plus du tout les mêmes problématiques que l'événement d'Annie Ernaux par exemple, où on avait des problématiques qui touchaient pas à rester en vie, mais qui pouvait tout le temps pouvait être abordé sur la thématique des émotions que ça générait, et il n'y avait pas grand chose. Donc celui-là, je l'ai vraiment fait dans cette optique-là de moi dire quelque chose avant tout pour moi, mais évidemment destiné à un public, quoi. Et j'ai vu l'écho qu'il a eu. Ce livre-là, pour les femmes et quand même des hommes aussi. J'ai reçu beaucoup, beaucoup de messages. Donc j'ai vu en fait la portée que ça avait de faire un livre d'une expérience intime et à quel point ça soulageait en fait des gens de se dire « Ah bah j'ai vraiment vécu quelque chose de très similaire et maintenant il y a un livre qui parle de ces émotions-là que j'ai vécu aussi, donc ça veut dire que je suis pas folle en gros quoi. » Et donc quand j'ai fait Éclore qui parle de sexualité... j'étais quand même très très nourrie de ce que j'avais vécu avec le premier. Donc pour le coup, je l'ai beaucoup plus fait pour les lectrices que pour moi-même, celui-là. Et je les avais un peu sur l'épaule, quoi, quand je le faisais. Donc j'avais pas du tout les mêmes choix de comment est-ce qu'on raconte l'intime et comment on raconte parfois la violence de l'intime. J'ai été beaucoup plus douce est beaucoup plus délicate avec le lectorat que je l'étais pour Il fallait que je vous le dise, qui est plus frontal, où finalement il y a plus de violence dans le dessin. Alors que voilà, pour Éclore, j'ai été plus suggestive dans la façon de dessiner, notamment les scènes d'abus. Et après, le pourquoi, c'est un peu... parce qu'il s'avère qu'il m'est arrivé des choses et il s'avère que je sais faire des livres et que du coup, ça me semblait presque un peu obligé, en fait, à un endroit. Le pouvoir, moi, de concevoir des récits à partir d'un vécu personnel... Et c'est des sujets où il y a besoin de récits, quoi. Il y a besoin de récits pour que la société avance. Et là, voilà, ça allait en faire deux de plus, en tout cas, qui, j'espère, enfin, qui, maintenant, je le sais, vu qu'ils sont sortis, ont fait du bien, quoi, pour des personnes qui ont vécu des trucs totalement équivalents, mais qui, pour le coup, n'ont pas forcément le pouvoir de faire un livre ou de faire n'importe quoi d'autre, d'ailleurs, de ces expériences, et qui, parfois, restent un peu coincés avec ces vécus-là sans que ça s'extériorise, quoi.
Et dessiner le réel, ça peut être violent, c'est ce que nous dit Aude Mermillot, et elle nous explique comment faire voir sans heurter le lecteur.
Mon dessin, il change un peu, parce qu'il change un peu avec les années, mais c'est plus une différence de cadrage, de mise en scène, où, par exemple, il y a une scène de début d'agression sexuelle, dans Il fallait que je vous le dise, que j'ai dessinée de façon hyper frontale, où on voit vraiment le sexe de l'homme, etc. Parce qu'à l'époque, ce qui m'importait, c'était de dessiner le réel, vraiment tel qu'il se produisait. Voilà. Sauf que là, dans Éclore, vu qu'on allait parler aussi de violences sexuelles, je voulais pas du tout mettre en difficulté mon lectorat, donc je suis restée beaucoup plus proche du corps de la jeune fille, avec par exemple des cadrages sur ce qu'elle regarde. Il y a jamais de plan large il y a très peu de plans larges sur la sexualité en fait, parce que je voulais pas qu'on puisse sexualiser de l'abus déjà, qu'on puisse érotiser de l'abus. Et en termes généraux, c'était quand même le propos que je voulais qui soit le plus important. Et je sais que visuellement, quand on regarde un livre, si on voit de la sexualité de façon frontale, bah ça va aller vers des images qui vont être plus des imaginaires plus pornographiques en fait. Donc je voulais pas appuyer sur ces curseurs-là. Et ça, c'est vraiment de la maturité dans le métier qui fait que j'avais cette distance-là que j'avais pas avant.
Alors moi, je trouve super intéressant qu'une dessinatrice nous explique comment elle traite les images. Ça me fait regarder les dessins autrement et peut-être avec un petit peu plus de recul par rapport à l'histoire dans laquelle on est plongé. Éclore, c'est un parcours tumultueux, dire oui, enfin, pas dire non, toujours, mais jusqu'où ? Et Éclore, c'est l'exploration de relations de toutes sortes. Et puis, toujours revient la première fois, à 14 ans, cette première fois forcée. Un long chemin de recherche, de réparation, de plaisir et de folie aussi. Peut-être vaut-il mieux placer ce livre en haut de l'étagère. C'est plutôt un livre pour adultes. Je rappelle aussi que Aude Mermillot a illustré, réalisé une BD en collaboration avec Martin Winkler à partir de son roman Le cœur des femmes. Une autre autrice, elle aussi fait des BD à ses heures perdues, mais son activité principale, pour elle, c'est chanter.
À la maison, les petits veulent des frites aux spaghettis, pas de souci. Je suis très large d'esprit, je suis open. À la caisse, les clients me passent souvent devant, c'est marrant. Ça tombe bien, j'ai tout mon temps, je suis open. À la terrasse du café, je me fais tout le temps siffler, c'est ok. Suffit de se laisser aller, je suis open. Le mardi, j'ai cours de yoga, ça m'ouvre les chakras. Je suis open. Quand je voudrais des je t'aime, mon mec me dit qu'il a la flemme, pas de problème. Je vais pas l'obliger quand même, je suis open. Les gosses, la maison, le chien, ils s'occupent de rien, mais tout va bien. C'est comme ça, le quotidien, c'est open. L'autre jour, j'ai surpris ma sœur avec mon chéri, Don't Worry. J'ai pas trop d'a priori, je suis open. Quand j'ai besoin d'être un peu tranquille, un petit coup de Lexomil, je suis open. Il me force un peu la nuit, et même quand j'ai pas envie, je suis polie. Je serre les dents et je dis oui, je reste open. Et puis quand il perd la boule, et puis quand il se défoule, je reste cool. Un peu de fond de teint et ça roule, je reste open. 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 Open.
Merci Lily pour cette chanson. C'est une composition de Lily Lucas. Un conseil, allez vous promener sur son site. Elle sait faire plein de choses, cette fille-là.
Et toujours autour de la voix et du chant.
Ah bah oui, chanter, c'est donner de la voix. C'est de l'intime quand on fredonne, mais c'est du collectif quand on y met des mots. C'est une résistance dans certains cas. Sur la table de présentation d'une de nos médiathèques, un livre, « Les femmes afghanes n'ont plus le droit de chanter ». On le sait, de nombreuses femmes sont muselées, particulièrement en Afghanistan. Alors que le régime taliban a promulgué fin août 2024 une nouvelle loi régissant encore davantage les femmes en Afghanistan, elles n'ont plus le droit de marcher seules dans la rue, elles n'ont plus le droit de chanter, de dire des poèmes ou de lire à haute voix et en public. Ayam Zetoun, l'autrice, d'origine égyptienne, sort de sa réserve. Pour la première fois, elle va à une réunion publique pour un tout autre sujet, mais pour elle, c'est une révélation. Des femmes se retrouvent et échangent sur des sujets qui la touchent. Elles veulent bien en être, elle veut bien en être pour une fois. L'annonce de cette brève lui donne envie d'écrire. Les Afghanes, quant à elles, protestent sur les réseaux. En réponse à de nouvelles entraves, les dizaines d'Afghanes à l'intérieur du pays et à l'étranger postent sur les réseaux sociaux des vidéos d'elles-mêmes en train de chanter, accompagnées de messages. Alors, ma voix n'est pas interdite, non, taliban. Derrière son long voile noir, une femme y chante des critiques virulentes à l'encontre du régime taliban. « Vous m'avez réduite au silence pour les années à venir, vous m'avez emprisonnée chez moi pour le seul crime d'être une femme. » Que ce soit des voix affirmées, des voix murmurées, des voix portées par d'autres, ces voix passent les voiles, elles passent les murs, elles passent les frontières. Ayam Zetoun explore en même temps la résistance des femmes en Afghanistan, celles qui donnent de la voix et de sa propre voix restée si longtemps silencieuse à elle. Pour comprendre ce qui se passe dans ce pays, la voix d'une autre femme journaliste indépendante, Solène Chalbion-Fioretti, est co-réalisatrice du documentaire « Vivre en pays taliban ». Et ce documentaire, il est toujours diffusé sur Arte et France 2. Elle est réalisatrice aussi d'un documentaire afghan diffusé sur France 5.
Oui, et ça me fait penser qu'on avait déjà évoqué le travail de la journaliste Solène Chalbion-Fioretti pour notre émission de septembre sur les femmes à Gaza. Et plus particulièrement, on avait à ce moment-là recommandé deux films de Solène Chalbion-Fioretti, Fragments de guerre et Femmes du 7 octobre.
D'accord.
Et puis, on parlera peut-être en 2026 de manière un peu plus approfondie de ces influenceurs qui font la promo du régime des talibans à coups de vidéos sur les réseaux sociaux, où on les voit en train de boire le thé ou se balader presque main dans la main, enfin main dans la calache avec les zinzins afghans. Voilà, la testostérone, hein, ça a fait faire n'importe quoi au mascu. Bon, allez, retour vers l'empathie avec un voyage, mais cette fois-ci qui a peut-être un peu plus de sens que le voyage en Afghanistan.
Alors ouais, voyage dans le temps, voyage sur une île. Ça se passe en Islande, on est au siècle dernier, les femmes décident de tout arrêter. C'est un documentaire que l'on peut trouver sur Arte, Un jour sans femme, un documentaire de Wen Rapniltouche, excusez-moi, Guernestelrich. Ça passe actuellement sur Arte TV. Alors, il y a des beaux paysages, évidemment, des beaux dessins qui ponctuent des témoignages rayonnants des femmes qui relatent cette aventure. L'aventure, ben, c'est l'histoire d'un groupe qu'on appelait les Chaussettes Rouges. C'était un groupe de femmes qui étaient activistes, qui, dans les années 70, n'hésitaient pas, ben, pour faire parler de leur combat, à crucifier, par exemple, une immense poupée sur un arbre de Noël au milieu de la ville, ou à inviter une vache lors d'un concours de beauté. Alors, évidemment, ça faisait réagir. Plus classiquement, moins provoque, elles organisent plein de réunions d'information. L'Islande, c'est une île et tout le monde se connaît. Ça aide quand tout le monde se connaît. Alors, leur but, c'était faire une journée sans femmes. Leur slogan, « Femmes, réveillez-vous ». Les Chaussettes Rouges ne ménagent pas leur peine jusqu'au 24 octobre 1975.
Je n'oublierai jamais comment les femmes ont déferlé sur la banque Astretti. C'était comme une coulée de lave. Là, je me suis dit qu'il allait se passer quelque chose d'extraordinaire dans notre pays.
Eh ben, le 24 octobre 1975, c'est la journée de grève. Non, pas de grève. Le mot n'a pas été retenu par tout le monde. Ça s'appelle la journée libre. C'est son nom, peu importe le nom. L'important, c'était de rassembler le plus grand nombre.
J'ai fait le discours d'introduction. Et ensuite, j'ai repris la parole une fois ou deux. J'ai lu les télégrammes de soutien venus de partout. Tout cela montrait bien de quoi les femmes sont capables quand elles s'unissent. C'était un événement incroyable. Des journalistes étrangers s'étaient même déplacés. J'avais le sentiment que nous étions en train d'accomplir quelque chose de crucial pour l'Islande et peut-être même pour d'autres pays. Il fallait une action concrète. Arrêter de travailler et observer les conséquences. Nous étions là, toutes ensemble, si nombreuses et souriantes. Des femmes tout à fait ordinaires. Des femmes au foyer, des ouvrières de l'usine de poissons. Beaucoup ne s'étaient jamais intéressées à la politique, n'avaient aucun lien avec des idées de gauche, ni même réfléchi aux droits des femmes. Pourtant, elles voulaient toutes quelque chose. C'était une véritable révolution.
Alors, le 24 octobre 1975, 90% des femmes ne se sont pas rendues sur leur lieu de travail. Ou alors, si elles ne travaillaient pas, elles ont déserté leur cuisine. Panique à bord, dans les banques, sur la terre, sur la mer, de partout. Le long vendredi, c'est comme ça que les hommes ont nommé cette journée, un vendredi qui a fait basculer l'Islande. Le pays s'est ouvert. Les femmes ont pu prendre des places de responsabilité dans la vie publique et choisir leur métier. Ça a été vraiment un grand détonateur.
Cette chanson était un cri de combat.
Afram Stelpour signifie « En avant les femmes ».
Allez les filles, donnons-nous la main.
C'est un chant qui invite à repenser les relations entre hommes et femmes.
Alors, c'est un documentaire qui met du baume au cœur, alors là, c'est sûr, et qui donne de l'énergie à celles et à ceux qui travaillent pour un monde plus égalitaire. Ben, si, ça existe, il y en a. Archives, témoignages se succèdent, ce qui ne gâche rien, au contraire, ce sont les dessins qui ponctuent les témoignages, des dessins très beaux.
Eh bien, merci. Chères auditrices, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein, on débranche tout, on écoute, on lit, on regarde les recommandations de l'émission. Chers auditeurs, bah, au boulot, hein, on vous laisse réfléchir à tout ça. Merci Jimmy à la technique.
Merci.
Merci à vous les filles.
Merci.
Rendez-vous en 2026 pour deux émissions consacrées aux femmes en politique. On entendra notamment l'historienne Ludivine Bantini qui nous parlera des femmes dans les mouvements de révolte. Ça fait écho à ce document islandais. Reposez-vous bien, on arrive. D'ici là, on vous souhaite une bonne fin d'année.
Je suis une graine d'anarchiste, mais oui, une bobo gauchiste, une féministe hystérique. Y a pas que mes poils qui piquent. Bien sûr, je desserre ma cause. Mon Dieu, mais comment elle ose? Non, mais c'est quoi cette allure? Viens, on l'aura à l'usure. Arrête de parler trop fort, ça risque de te porter tort. Et puis, c'est pas ça le problème, les féministes, toutes les mêmes. Arrête de jouer les victimes, l'important c'est ce qui brime. Mais surtout la vie des gens, mais pourquoi tu perds ton temps? Mais parce que je suis libre, libre de mon corps, à jamais à la mort. Je suis libre, je suis libre, libre de ma vie. Si ça ne plaît pas, tant pis, j'suis pas. Tous les mecs sont pas comme ça. T'es agressif, crois-moi. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Pourquoi t'es jamais d'accord? Ferme donc un peu ta grande gueule, sinon tu vas finir seul. Et puis qu'est-ce qu'elle a la grosse? Nous on aime que les sacs d'os. Arrête de dire qu'on te fait chier, nous on pense à ta santé. Putain, mais qu'est-ce que t'es chiante? L'important c'est d'être pendante. À quoi ça te sert de penser? Tu préfères pas la télé? Non, parce que je suis libre, libre de mon corps, à jamais à la mort. Je suis libre, je suis libre, libre de ma vie. Si ça te plaît pas, je m'appelle irrévérence, je m'appelle impertinence, je m'appelle indépendance, je suis désobéissance, je suis puissance, résilience, je suis émancipation, je m'appelle libération, je m'appelle fond la paix. Regarde ailleurs, s'il te plaît, je m'appelle me parle pas, je suis pas dispo comme ça, je m'appelle passe ton chemin, je m'appelle carton venin, je suis l'éternel.